EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Michael Dopia qui nous vient de la Guadeloupe. Bonjour, pasteur Michael.
Bonjour, pasteur Joël.
Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important.
Oui.
3 jours dans le tombeau et puis il y a eu un effet majeur pour nous, les enfants de Dieu. Mais juste avant, je veux juste rappeler nos amis à la maison qui te découvrent pour la première fois. Donc, tu es pasteur en Guadeloupe.
C'est ça.
Et puis, tu es marié avec 3 enfants.
C'est ça.
Et puis, tu as vraiment un cœur pour le réveil de ta région dans les Caraïbes et au-delà même, en Amérique du Sud aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est bien ça. Oui. On est bien basé en Guadeloupe et on travaille effectivement beaucoup sur le réveil. Mm-hmm. D'ailleurs, notre saison cette année, c'était le réveil des hauteurs.
Ah.
Et c'est vrai qu'on fait, on a fait 10 je crois, de campagnes d'évangélisation et de sessions de réveil.
Wow.
Et surtout dans des zones, justement, où l'évangile n'est pas suffisamment propagé, ou pas du tout, voire par moment.
Mm-hmm.
Et on a vécu des très bons moments. On voit vraiment la gloire de Dieu, des personnes qui donnent leur vie au Seigneur.
Mm.
Et je crois vraiment au réveil, vraiment de ces temps-là.
En fait, ta vie a commencé comme ça, ta vie spirituelle a commencé dans un réveil personnel.
Exactement.
Hier, on a vu justement comment tu as été sauvé surnaturellement, tout seul à la maison, mais en fait, ta mère était là comme témoin de cette visitation surnaturelle et l'appel au ministère,
bien sûr.
L'appel aux jeunes et puis même le baptême du Saint-Esprit.
Tout à fait.
C'était vraiment toute une histoire
incroyable
à découvrir sur emctv.com. Allez en archive et puis vous allez pouvoir entendre son témoignage merveilleux et bénissant. Aujourd'hui, on va parler justement des 3 jours dans le tombeau.
Oui.
Donc, tu avais à cœur qu'on lise un texte dans Éphésiens, chapitre 4.
Oui, voilà. Alors, on va le lire ensemble. Je vais peut-être le décomposer simplement sur deux phases. Il y a 2 choses importantes dans ce texte. C'est le fait que Dieu est d'un côté libéré les captifs,
mm-hmm.
Jésus du moins, libéré les captifs, et d'un autre côté fait des dons aux hommes.
Mm-hmm.
Alors c'est vrai que souvent, on lit le passage, mais on ne prend pas assez conscience que c'est à cause de la mort de Christ et de sa résurrection.
Mm-hmm.
Ça veut dire que sur le plan surnaturel, ce n'était pas comme un enterrement normal. Ce n'est pas comme on fait un enterrement chaque jour, qu'on enterre des personnes. Et voilà. Non, il s'est vraiment passé quelque chose parce que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était unique. Et on voit que durant ces 3 jours, ça a été en fait le timing de Dieu pour qu'il y ait un travail surnaturel. Je pense que tu te rappelles, pasteur Joël, que durant ce travail, la Bible nous dit justement qu'à la croix, les dominations ont été dépouillées, elles ont été livrées en spectacle. Oui, tout à fait. Et donc, surnaturellement, on sait que leur équipement qui leur permettait de faire la guerre, de nous combattre, a été complètement enlevé.
Amen.
Ça veut dire déjà que, premièrement, sur le plan de la victoire, sur le plan spirituel, les démons sont désarmés. Et ça, c'est fort.
Ça, c'est très important. Et va pas trop vite, pasteur Michael, parce que je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui nous disent, on reçoit beaucoup de lettres, que vraiment l'Esprit de Dieu vous accorde une révélation aujourd'hui.
Oui.
Vous n'avez plus besoin de combattre le diable.
Oui.
Non, le diable a été défait. Je vais lire en fait le texte que tu es en train de décrire.
Oui, pasteur, vas-y.
Dans Colossiens chapitre 2, au verset 14 et au verset 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix.
Exactement.
Donc, le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les autorités de leur puissance.
Tout à fait.
Donc, aujourd'hui, le diable rôde encore comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais c'est quelle personne qui peut dévorer? En fait, il peut dévorer celui qui ignore que Satan, en fait, a plus de puissance. C'est-à-dire que Satan a été dépouillé de sa puissance et aujourd'hui, nous avons l'autorité de chasser le diable.
Tout à fait. Et il y a quelque chose que je dis souvent à mon église, pasteur, je leur dis souvent, quand en fait vous combattez l'ennemi, le diable, en réalité, il n'a plus d'armes.
Non.
La seule chose, quand quelqu'un est vaincu, il lui reste quoi ? Faire peur.
C'est ça.
Et je dis toujours, un vaincu qui sait qu'il est vaincu, il lui reste plus qu'à crier fort, qu'à faire de grands gestes et nous faire croire finalement qu'il est encore là. Et c'est ce que le diable fait.
Oui.
Il envoie des angoisses, il envoie des peurs, des craintes.
Mm-hmm.
Et si notre foi n'est pas assez forte, et effectivement si nous n'avons pas assez la connaissance ou la révélation réellement de ce que nous avons reçu, eh bien ces effets-là ont un fonctionnement sur nous qui peut être très néfaste, parce qu'on voit des fois que rien que par la peur, rien que par l'angoisse, le diable arrive à mettre des personnes dans de très mauvaises situations.
C'est ça.
Et il faut que ces personnes comprennent qu'en Jésus-Christ, elles ont la victoire. Oui. Il n'y a plus aucune autorité, il n'y a plus aucune domination qui peut se battre avec des armes. Ils combattent nus, ils n'ont plus rien.
En fait, je veux vraiment insister là-dessus, c'est que oui. Satan a été dépouillé de sa puissance. Si vous êtes là à la maison, vous dites « Oui, mais le diable fait toutes sortes de choses contre moi. » En fait, le diable peut uniquement faire ce que nous lui permettons
tout
de
à
faire.
Fait.
C'est
tout
vraiment
fait.
La réalité, là, parce qu'il a été dépouillé de sa puissance, tout donc... S'il a été dépouillé, il peut juste être puissant si nous lui remettons notre autorité par ignorance ou par choix. Mais qui voudrait faire ça?
Oui.
Donc aujourd'hui, nous sommes victorieux
tout
en Christ. Nous avons l'autorité sur le royaume des ténèbres. Et le pasteur Michael va nous partager aujourd'hui comment en fait cette victoire a un impact dans notre vie aujourd'hui.
Bien sûr. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 6 aussi, j'y viens parce que tu en parles, parce qu'on est obligé d'en parler.
Oui.
On parle de l'armure du croyant. C'est formidable parce qu'en fait, le diable a une armée qui n'a plus d'armure alors que les croyants ont une armure. Ça, c'est incroyable. Comment pouvons-nous perdre? On lira pas tout, mais vous savez très bien, vous pourrez le lire chez vous dans Éphésiens 6, dans les armes spirituelles du chrétien.
Oui.
On sait qu'il y a le bouclier de la foi. Et la Bible dit que le bouclier de la foi est fait pour éteindre les traits enflammés du malin. Ça m'intéresse. Parce qu'en fait, les gens, on ne doit pas voir simplement une flèche, mais on doit voir spirituellement ce qu'est la flèche.
Oui.
Si je mets mon bouclier, c'est-à-dire que je le mets, il s'appelle la foi, ça veut dire que j'ai mis ma foi en Dieu et que je crois donc à tout ce que Dieu m'a donné et je peux contrecarrer les plans du diable. Comment ? Le diable, la Bible dit, on l'a dit dans l'émission précédente, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Autrement dit, ce qui est alimenté premièrement par la parole, c'est nos pensées, pasteur.
Mm-hmm.
Donc quand nos pensées entendent la parole de Dieu, il y a une activité spirituelle qui se crée dans nos cœurs, qui émane, donc qui fait vivre la foi et qui va donc nous renforcer. Mais le diable sait que la foi vient de ce qu'on entend.
Mm-hmm.
Donc il sait aussi que l'esprit est le lieu où il peut attaquer.
Mm-hmm.
Donc qu'est-ce qu'il fait quand il envoie des flèches? Il rôde comme un lion rugissant et il regarde qui n'a plus son bouclier. Et quand il voit que quelqu'un n'a plus son bouclier, que cette personne n'a plus la foi, c'est le moment pour lui d'envoyer en fin de compte des pensées néfastes et il envoie des mauvaises pensées. Et là, tu te retrouves angoissé, tu sens que tu vas mourir, tu entends des paroles négatives. C'est le diable qui est en train d'envoyer des flèches. Quand tu commences à entendre dans ton système de pensée des paroles négatives, tu sais que Dieu ne peut pas te donner des paroles négatives.
C'est
donc,
certain.
Si ce n'est pas le Seigneur, c'est que c'est l'ennemi. C'est le moment donc de se relever, de prendre son bouclier
Amen.
Et à ce moment-là, d'éteindre les traits enflammés du malin pour s'en sortir.
Justement. Et parce que dans Philippiens 4, verset 8, nous savons que ces pensées ne peuvent pas venir de Dieu.
Tout à fait.
Parce que Dieu contredirait sa propre parole.
Exactement.
Dans Éphésiens 4, verset 8, il est écrit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais si je pense à un scénario qui crée de la peur en moi, on sait que c'est pas le Saint-Esprit qui inspire la peur Donc, on doit chasser ces pensées-là par la foi. Et puis, ce que je remarque aussi dans le texte qu'on vient de lire dans Éphésiens 6, verset 16, il est écrit, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Donc, c'est une victoire certaine.
Tous
les traits enflammés.
On pourrait même parler de triomphe.
Amen.
C'est même plus une victoire, c'est un triomphe. C'est-à-dire que l'ennemi est carrément paralysé.
Gloire à Dieu.
Mais encore faut-il qu'on puisse manifester cette foi.
Mm-hmm.
Et donc, je pense que ceux qui nous regardent aujourd'hui vont comprendre qu'ils peuvent se lever et qu'ils ont moyen, en tout cas, d'éteindre les traits enflammés du malin. Ça, c'est une certitude.
Mm-hmm.
Ce qui nous fait revenir, justement, donc on se rend compte, pasteur, c'est extraordinaire. Souvent, on parle de la mort de Christ au tombeau.
Mm-hmm.
On lit ça un peu comme une histoire. Bon, Jésus est mort. Bon, il a été enterré. D'accord, il est ressuscité.
Ouais.
Les gens, en fait, ça peut être banalisé.
Mm-hmm.
Ce n'est pas banal. S'il n'était pas passé par la croix, on n'aurait pas eu cette activité spirituelle où on est plus que vainqueur avec les armes spirituelles du chrétien.
Mm-hmm.
Et là, on peut aller plus loin. Il est dit dans Éphésiens 4, bien sûr, au verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Comment il a pu emmener des captifs? Pourquoi? C'est parce qu'on sait qu'il est aussi descendu.
Mmh.
Et donc, il a libéré, en fin de compte, les personnes qui étaient prisonnières, et c'est aussi nous, il nous a libérés, forcément, de l'activité démoniaque, et il nous a, à travers cette liberté, donné la puissance de la victoire. Il y a quelque chose d'important, c'est qu'il n'a pas fait que ça. La Bible dit qu'il a donné des dons aux hommes.
Mmh.
Il a offert des cadeaux. Moi, j'aime bien dire, pasteur, offert des cadeaux, parce que quand on dit don, bon, les gens voient don, mais pas de la même façon. Un cadeau, c'est un cadeau.
Mmh.
Et quel type de cadeau? Ça, c'est formidable. On a tendance à croire que Dieu est parti, Jésus est monté dans le ciel, et puis il envoie des cadeaux comme ça. Non, Jésus a fait le choix, Dieu a fait le choix d'utiliser des hommes sur la terre. Et c'est là où on va voir que c'est formidable, puisque dans Éphésiens 4, verset notamment 9, il est dit, donc, or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc il a crié sous la terre, là où il y avait la mort. Il a crié pour dire, vous êtes libres. Ça, c'est incroyable. Mmh. Et la terre, sous la terre, savait que Jésus, effectivement, avait gagné. Et il est dit, verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. D'accord ? Et plus loin encore, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça, on doit en parler. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus a fait ? Il est monté, et il y a eu une libération de cadeaux qui a opéré, c'est-à-dire qu'il y a eu la naissance de nouveaux cadeaux qui sont tombés sur la terre pour des hommes qui décidaient de croire en Jésus-Christ, et il a activé en eux le cœur du ministère. Et on voit qu'il y a 5 ministères qui ont été créés à travers le passage dans le tombeau et la remontée de Jésus dans le ciel. S'il n'y avait pas eu cet acte, on ne pouvait pas avoir les 5 ministères. Et c'est pourquoi il faut en parler, parce que beaucoup de personnes croient aujourd'hui qu'ils peuvent recevoir... Prenons un exemple, j'ai reçu le Saint-Esprit chez moi. Ça, c'est important. Le Saint-Esprit m'a dit, au bout de 2 semaines, pasteur, va dans une église. Je ne l'ai pas inventé. Je n'avais pas lu la Bible auparavant. Donc, j'avais une neutralité au niveau de cette perception. C'est donc une pensée qui venait du cœur de Dieu, parce que Dieu savait que je ne pouvais pas, même si j'avais le Saint-Esprit, rester seul. Il faut mettre un équilibre. Beaucoup de personnes croient que quand elles reçoivent le Saint-Esprit, elles se suffisent elles-mêmes. C'est-à-dire, elles vivent avec l'Esprit de Dieu, c'est suffisant. Mais il faut comprendre que le royaume des cieux est multiple, il a différentes faces, différents visages, et que Dieu s'emploie à nous instruire avec différents moyens. Le Saint-Esprit, c'est vrai. Et ensuite, les ministères qu'il a offerts. Pourquoi ? Parce qu'il dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Autrement dit, aucun chrétien ne peut se perfectionner sans les ministères. Il dit plus loin encore, pourquoi ? Pour l'édification du corps de Christ. Édification, en grec, qui veut dire construction. Donc, ça veut dire qu'un chrétien peut être construit par le Saint-Esprit, mais dans sa construction, il y aura des manques s'il rejette les ministères. Parce que Dieu verra lui-même qu'il refuse les outils qu'il a mis en place pour que cette personne puisse se construire et atteindre une certaine maturité.
Donc, tu es en train de nous prêcher, en fait, l'importance de l'Église locale.
Exactement, c'est ça.
Ici, à EMCTV, nous croyons dans l'Église locale. Nous croyons dans l'évangélisation dans les nations par le biais des médias, la télévision, les sites Internet, la radio. Bref, nous croyons dans l'évangélisation dans les nations.
Bien sûr.
Mais nous croyons aussi à l'importance de l'Église locale. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, bon, lorsque le Seigneur s'est révélé à toi pour ton salut, mais pas longtemps après, il t'a vraiment dirigé vers une Église locale où tu pourrais être nourri spirituellement.
Tout à fait.
Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je suis nourri par EMCTV, je suis très bien nourri, et on dit gloire à Dieu pour
Amen.
Ça. Mais en fait, moi, je ne peux pas être le pasteur de toutes les brebis. Par exemple, quelqu'un décède dans votre famille. Moi, je ne peux pas aller faire les funérailles partout dans le monde.
Bien sûr.
On a besoin d'être rattaché à une maison spirituelle où on va avoir un pasteur dans notre vie qui va être bien là. Sûr. Si on est malade, il peut venir nous visiter à l'hôpital. Bref, on a besoin d'avoir un soutien, pas simplement virtuel, parce que nous sommes là, oui, en esprit, gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu est avec nous et avec vous, donc ça, il n'y a pas de souci, mais on a besoin d'avoir des frères et des sœurs qui sont là. Si on a un besoin, on peut appeler, on a une question biblique. Toi, au début de ta conversion, quelqu'un t'avait dit, c'est ta mère, en fait, qui t'avait dit, si tu as une question, appelle tel pasteur.
Tout à fait.
Parce qu'on n'est pas appelé à être isolé.
Bien sûr.
Mais je pense que si on s'isole, il y a plusieurs raisons.
Bien sûr.
Peut-être on a été blessé dans le passé.
C'est ça.
On veut se protéger. Des fois, on est dans l'orgueil aussi. On s'imagine, je suis autosuffisant.
Exactement.
Mais, semblerait-il, dans Éphésiens 4, verset 11, 11 et verset 12, voit ici que, en fait, Jésus a fait des dons à l'Église. Donc, on parle ici des apôtres, quelqu'un qui est envoyé avec un message.
Exactement.
Un prophète aussi qui peut être dans une église locale, qui est là pour apporter la parole de l'Éternel, vraiment parler au nom de Dieu. L'évangéliste qui est là pour nous enseigner sur l'évangélisation, comment évangéliser, comment gagner des âmes, les pasteurs et les docteurs. On parle du pasteur, on parle vraiment d'un berger, quelqu'un qui est là pour prendre soin de nous lorsqu'on a besoin, et le docteur qui est là pour nous aider à aller dans les profondeurs.
Tout à fait.
C'est certain que oui, les 5 ministères, on peut les retrouver dans les médias, mais on a besoin de connaître intimement ces gens-là aussi.
Oui. Et ce qui est quand même impressionnant, pasteur, c'est que c'est la suite qui est importante, parce qu'on pourrait se dire, d'accord, il a fait des cadeaux, je peux très bien te donner un cadeau et te dire, bon voilà, tu le gardes chez toi, tu ne l'ouvres pas. Mais Dieu va faire une demande, la demande, il va dire, ouvre ton cadeau, parce que tu dois savoir à quoi il va servir. C'est quand tu ouvres un cadeau que tu sais à quoi il sert.
C'est ça.
Et donc, il va dire, voilà, en vue de l'œuvre du ministère, donc bien sûr, donc pour le perfectionnement des saints, premièrement. Ouais. La perfection, c'est quand même important. D'accord, nous sommes pécheurs, nous savons, nous sommes imparfaits, c'est vrai, mais quand même, Dieu veut nous perfectionner de jour en jour. Donc, nous marchons vers un schéma de perfection, et donc, dans ce schéma de perfection, nul ne peut se perfectionner lui seul. Mmh. Et donc, souvent, les personnes croient que comme elles ont le Saint-Esprit, c'est suffisant, mais en fin de compte, Dieu va utiliser les ministères, c'est ça qui est magnifique, parce qu'il y a diversité de ministères, et donc, il y a diversité de façons de perfectionner le corps de Christ. C'est incroyable. Mmh. Un prophète va parler d'une façon qui sera différente d'un pasteur. Un apôtre va parler différemment d'un prophète ou d'un évangéliste. Mmh. Mais tous les langages qui sont utilisés sont des langages qui viennent du royaume des cieux et dont le corps de Christ a besoin pour se construire. Parce qu'en fin de compte, quand nous naissons, nous sommes des bébés, nous devons grandir et devenant nous-mêmes les temples du Saint-Esprit, nous devons être bâtis donc par l'école de Dieu. Oui. Pourquoi j'ai cette tendance ? Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, pasteur, mais moi, je dis souvent, c'est pas que je n'aime pas le mot église, mais il était tellement mal porté, mal représenté. Chez moi, je dis que c'est une école. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est une école où on a l'apprentissage, en fin de compte, du royaume des cieux. On reçoit l'instruction pour sortir dehors et manifester la qualité de Christ. Mmh. Autrement dit, c'est pas religieusement que nous allons dans une bâtisse pour recevoir simplement nos enseignements, être content, aller louer le Seigneur et repartir chez nous. Mmh. Sinon, c'est vraiment dommage, c'est que nous n'avons rien compris. Nous venons à l'école pour recevoir une instruction, pour manifester un nouveau caractère sur la terre, afin que nous soyons des lumières, des témoins de Christ, et qu'à ce moment-là, on dise, oui, vraiment, nous voyons dans ces personnes que Dieu existe, et nous avons aussi envie de nous rapprocher d'eux, parce que souvent, on voit que, au lieu d'attirer les non-chrétiens vers l'Église, on les a des fois, parfois, malheureusement, éloignés, donnant une mauvaise image religieuse et qui n'est pas intéressante.
C'est ça. Pour moi, l'église locale, c'est aussi une famille. Hein?
Tout à fait.
C'est une école. Certainement, on va grandir.
Oui, tout à fait.
Mais on va côtoyer des frères et des sœurs papier sablé.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
qui vont être utilisés de la part de Dieu pour nous raffiner.
Oui, le faire. Parce
c'est vrai.
Ça,
donc,
c'est vrai.
Des fois, on est là, on dit, ben moi, je veux pas me faire mal ou je veux pas que quelqu'un me fasse mal. Oui, mais on fait mal aussi aux gens. Parce qu'on est imparfait aussi. Mais si nous sommes dans une famille, on comprend que nous sommes dans une famille spirituelle.
Oui.
On va, célébrer les victoires des gens, n'est-ce pas? On va célébrer telle percée. Alléluia, gloire à Dieu. On a prié ensemble et puis voilà ta percée. Quelqu'un passe par une épreuve. Ah, nous sommes là. On va pleurer avec ceux qui pleurent et on va se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc, c'est vraiment une famille spirituelle. Et je pense, si on s'isole, on est perdant, en fait. Et c'est le diable qui nous vole.
Oui.
C'est vraiment ça. Comme tu dis, il y a eu des églises qui ont peut-être pas vraiment bien représenté le Seigneur, mais on ne veut pas supprimer l'idée de Dieu.
Non.
C'est Jésus, en fait, qui a eu cette idée-là. Il dit, les séjours des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Donc, c'est l'idée du Seigneur. Nous, on a simplement besoin d'adopter son idée, l'idée du Seigneur Jésus, et là, se laisser transformer pour que cette Église soit glorieuse.
Parce qu'il
va venir chercher une Église glorieuse, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et tu as dit quelque chose de très important. On ne peut pas supprimer les préceptes de Dieu à cause des erreurs.
Ça,
c'est important que les auditeurs le comprennent, parce que je rencontre, c'est vrai, souvent des personnes blessées, les gens sont blessés par des mauvaises expériences, des mauvais agissements. On ne peut pas supprimer la parole de Dieu à cause des erreurs. Non. Sinon, ça permettrait au diable de réussir.
Ouais.
Et donc, ça c'est vraiment, il faut comprendre que si les personnes qui nous regardent aujourd'hui ont subi des défaites à l'Église, ont eu des blessures, des mauvais rapports, peut-être avec un frère ou même une sœur de l'Église, on vous encourage aujourd'hui à laisser de côté et plutôt à voir au Seigneur, parce que les hommes feront des erreurs, mais Dieu n'en fera jamais.
Amen.
Et Dieu ne vous décevra jamais. Revenez vraiment à lui, c'est important, et continuez de marcher, de chercher une église si vous n'en avez pas, une église d'attache, c'est vrai, ou alors sinon réconciliez-vous aussi, parce que ça aussi c'est possible. Le Seigneur dit, forcez-vous d'être en paix avec tous, tant que vous pouvez le faire. Je crois que c'est important.
Oui.
Et on doit prendre conscience aussi que c'est 3 jours dans le tombeau quand même. C'est quelque chose. C'est passer par une douleur. J'ai bien aimé ce que tu as dit aussi quand tu as dit des papiers sablés. Je retiendrai cette expression, elle est très intéressante. Et ce que Dieu nous a offert, c'est dans la souffrance. Jésus nous a offert ça dans la souffrance. Il n'est pas parti comme ça, un beau matin, on l'a vu partir dans le ciel, il a été enlevé, et c'est bon, les dons sont arrivés sur la terre. Et cette souffrance, c'est elle qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ces dons magnifiques et qui nous permettent de grandir. Donc nous aussi, au niveau de l'église locale, comme tu disais, on doit accepter de nous frotter aux autres, parce que c'est aussi parfois, c'est vrai, dans la douleur, c'est vrai dans la souffrance, qu'on apprend finalement à obtenir le caractère de Christ, à lui ressembler, et finalement être changé et modifié. Alors bien sûr, ça ne passe pas tout le temps par la souffrance. Mais je crois qu'il faut...
Heureusement.
Oui, heureusement. Mais je crois qu'on doit savoir que ressembler à Christ, c'est aussi souffrir. Et on a trop tendance, des fois, les chrétiens, parfois, ont trop tendance à croire que oui, parce qu'ils ont choisi Jésus, c'est une vie de bonheur. Donc bon, c'est pas normal tout ce qui m'arrive.
C'est une vie de bonheur, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas
sans épreuve. Voilà, ah, voilà, c'est mieux dit, c'est ça. Et il faut qu'ils le comprennent aussi, c'est très important. C'est si tu as des épreuves, tu n'es pas anormal en fait.
Non,
tu n'es pas bizarre.
En fait, dès qu'on devient un enfant de Dieu, il y a des gens qui m'ont dit, Pasteur Joël, moi depuis que je suis chrétien, la vie, je la trouve difficile. Plus compliquée. Hein.
Oui.
Mais c'est normal parce qu'avant, on était avec Satan, on marchait avec lui dans son équipe, et dès qu'on se range contre lui, on fait partie de l'équipe opposante, là, bien c'est certain qu'on va avoir une opposition qu'on ne vivait pas avant, mais nous sommes dans le camp du victorieux. C'est ça la différence.
C'est ça la différence. Ouais. Et on peut aller plus loin, puisqu'on peut continuer de lire ce passage, parce qu'il y a d'autres données importantes.
Mm-hmm.
Verset 13, il va dire, jusqu'à, toujours Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi.
Oui.
Ça, c'est quand même important, parce que la Bible dit en même temps aussi que dans ces temps dans lesquels nous sommes, la foi d'un plus grand nombre va se refroidir.
C'est vrai, oui.
Donc, il y a un enjeu au niveau de la foi.
Mm-hmm.
Et donc, ça veut dire, qui dit refroidissement dit qu'il y avait d'abord une chaleur. Quelque chose qui se refroidit, c'est quelque chose qui est chaud. Donc, Dieu explique qu'en fait, que plus nous avançons dans le temps, plus la foi va se refroidir. Et donc, s'il y a un refroidissement, pasteur, ça veut dire que des choses que nous lisions dans la Bible, que nous pouvions trouver chaudes, nous allons les trouver d'un seul coup froides, à cause de ce que nous vivons. Et donc, forcément...
Par exemple, qu'est-ce que tu veux dire?
Ah ben, ce que nous disions auparavant, des mauvaises expériences, des blessures, des choses qui nous ont déplu par rapport à certaines situations, qui finalement nous ne voyons plus Dieu parce que nous voyons plus les hommes, malheureusement, à ce qui s'est passé. Et donc notre foi se refroidit, nous ne voulons plus croire aux promesses de Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons éliminer certaines choses qui sont liées à la parole et finalement dévier. Pasteur, tu sais, souvent on peut avoir cru en quelque chose au début, ne plus y croire demain à cause d'une mauvaise expérience. Et ça, c'est très dangereux. Mmh. C'est pourquoi il faut rappeler à nos auditeurs aussi que les mauvaises expériences ne doivent jamais nous faire dévier par rapport à la saine doctrine. On ne peut pas éliminer. Tu sais, bon, il y a un sujet un peu délicat auquel je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que je vois maintenant, malheureusement, des fois dans le corps de Christ, des remariages qui n'en finissent pas, alors que pourtant la Bible nous éclaire quand même sur ce sujet. On ne peut pas se remarier 10 000 fois dans le Seigneur. Et on voit que des fois, à cause des expériences, juste parce que les gens ont envie d'être bien ou qu'ils veulent vivre quelque chose, ils sont prêts à modifier en fait les choses en disant non, mais tu sais, ce n'est pas ça. Et la foi qui va se refroidir, c'est aussi ça. Foi, c'est pas simplement dire oui, je crois à l'impossible de Dieu. Non, la foi, c'est au-delà de ça. La foi, c'est croire à tous les préceptes que Dieu nous a laissés jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je meure et jusqu'à ce que Dieu revienne, parce qu'on sait que dans ces temps difficiles, le diable travaille pour modifier la parole et pour nous faire croire à des choses qui sont erronées. Et donc, il faut qu'on fasse attention.
C'est ça. En fait, j'aimerais ça aller lire Hébreux chapitre 10 au verset 25.
Oui.
On va commencer au verset 24, en fait, parce que ce que tu nous dis là, en fait, c'est d'être obéissant, tout simplement.
Tout à fait.
Dieu nous appelle à être obéissant.
Oui.
Et quand on parle aujourd'hui de l'Église locale, par exemple, que Dieu a fait des dons à l'Église, cinq ministères, et on retrouve ces cinq ministères, oui, à l'extérieur de l'Église, mais premièrement dans l'Église locale.
Tout à fait.
Et c'est pour ça qu'on voit dans Hébreux 10, au verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, ensemble, on va être excités à l'amour, aimer nos frères et nos sœurs, et aux bonnes œuvres aussi. On va voir notre frère qui donne, je ne sais pas, de la nourriture à quelqu'un dans le besoin, on peut être inspiré et dire « Ah, ben moi aussi, je vais faire pareil. » Bon, et au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, ceci veut dire, en fait, ce n'est pas une suggestion.
Non.
Si je respecte Dieu, si j'ai une crainte de Dieu, je ne pourrais jamais dire, oui, je sais, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, il ne faut pas abandonner notre église locale.
Exactement.
Mais moi, je te dis non.
Oui, en fait,
pasteur, il y a beaucoup de chrétiens qu'on rencontre.
Bien sûr,
je sais que la Bible dit ça, mais moi, j'ai dit non à Dieu.
Voilà, c'est ça.
Mais pour moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire que Jésus est le Seigneur de notre vie, c'est-à-dire le maître de notre vie, et on fait ce qu'on veut.
Exactement.
Est-ce que c'est possible que Jésus soit le Seigneur et on dit non, Jésus? Ta Bible dit ça, mais moi, je dis non.
Non, la Bible dit soit tu serviras l'un, soit tu serviras l'autre. Il n'y a pas, il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas créer une autre. Je sais que les gens aiment bien créer, tu sais, cette phase au milieu, là. Hein?
Ouais.
Être d'un côté en même temps de l'autre. On ne peut pas. Soit on sert Dieu, soit on sert le diable.
Ouais.
C'est dur à entendre des fois pour les gens, parce que je sais que c'est une phrase difficile, mais on ne peut pas se dire, oui, je refuse d'obéir, c'est difficile. Quand je désobéis à Dieu, j'obéis au diable.
Mm-hmm.
Et malheureusement, il faut le constater. Et dans la vie, on a un maître, c'est obligatoire. On ne peut pas être sans maître. On ne peut pas dire, bon, J'ai pas choisi Dieu, j'ai pas choisi le diable, donc je suis sans maître. C'est pas, ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. Donc on sert l'un ou l'autre. Et donc il faut se rendre compte que si on désobéit à la parole, on est en train de servir le diable. Et donc notre salut aussi est en jeu, parce qu'on ne sait pas quand Jésus revient, on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt. On ne peut pas mourir dans cette condition. Beaucoup de gens croient malheureusement, comme on disait au début de cette thématique, qu'ils sont baptisés, c'est suffisant. Et puis bon, en gros, l'évangile c'est difficile. La vie est difficile. Le Seigneur va comprendre en fait, hein, parce que le Seigneur va nous comprendre. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur veut notre obéissance. Il fait grâce aux hommes, il résiste aux orgueilleux. Et c'est vrai que derrière la rébellion, il y a souvent l'orgueil de l'homme. C'est en fait l'homme qui veut diriger encore ses pas, qui ne veut plus marcher par l'esprit. Et là, malheureusement, il va se retrouver en mauvaise position.
En fait, pour vivre la vie chrétienne, c'est pas trop compliqué. Hein. Moi, je peux résoudre la vie chrétienne dans un seul mot.
Oui.
Quand Dieu nous parle, on dit oui.
Tout à fait. Amen, pasteur.
La vie chrétienne, c'est ça.
C'est ça.
On dit oui. Dieu nous dit de faire quelque chose, on lit dans sa parole, on va dire oui. Ou en deux mots, oui, papa.
Tout à fait.
Oui, papa.
Oui, c'est
Et puis, en fait, c'est pas compliqué. La vie chrétienne, il faut juste être obéissant.
Bien sûr.
Si nous sommes obéissants, le Seigneur va nous diriger. Et puis, on va voir la main de Dieu. Et puis, si notre chair veut, s'oppose, par exemple, à la parole, la Bible nous dit, par exemple, faut être présent à notre église locale. Et puis, ma chair me dit non, pour plein de raisons. Mais je dis, malgré moi, Seigneur Dieu, je vais vraiment obéir ta parole.
Bien sûr.
Eh bien là, on va voir que Dieu va nous guérir. On va voir finalement que Dieu avait raison, même si ma chair ne voulait pas se soumettre.
Bien sûr.
Donc, la vie chrétienne, je pense, dès qu'on réalise ça, en fait, que simplement Dieu nous appelle à marcher dans l'obéissance, on va vraiment être heureux. Et puis, Dieu aussi nous promet dans sa parole qu'il va nous donner le désir de notre cœur. Ça, c'est très important. Si Dieu veut m'accorder, en fait, les désirs de mon cœur, bien, c'est parce que mon cœur a été transformé par lui et j'ai son cœur. Le cœur de Dieu est en moi et puis Dieu change mes goûts. Et ce qui est merveilleux, c'est que ma vie de discipline, l'Église, la lecture de la parole, la prière, toutes ces choses-là, en fait, la vie chrétienne, nous sommes appelés des disciples du Seigneur Jésus-Christ, mais le fait que nous soyons disciplinés, c'est en fait le résultat qu'on a fait de Jésus vraiment notre délice. Tout découle du fait que le Seigneur est notre délice.
Amen.
Donc, je ne suis pas discipliné par la chair.
Ah,
je dois aller à l'église. Ah, je dois lire. Je dois prier. Non, c'est pas je dois, c'est j'ai le privilège. J'ai la grâce d'avoir une famille spirituelle. J'ai la grâce d'avoir accès auprès du trône de la grâce, prier, livrer mon cœur au Seigneur. J'ai la grâce d'avoir cette parole merveilleuse.
Exactement.
Donc, tout change dans ma vie lorsque je fais du Seigneur mon délice.
C'est ça. Et je crois, pour terminer, que les personnes, en fait, qui doivent se rendre compte, quand elles dérivent comme ça ou qu'elles sont en mauvaise phase, elles doivent se rendre compte qu'elles sont plus focalisées sur le sacrifice de Jésus. Parce qu'en réalité, si j'ai compris vraiment ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi, que j'ai compris la teneur du sacrifice et ce que j'ai reçu par rapport à ce sacrifice, quelles que soient les épreuves que je vais avoir, les difficultés que je vais avoir au niveau de l'Église, les personnes, peu importe, si je suis focus sur ça, ça va toujours me ramener à la simplicité de la parole et me dire non, le Seigneur a fait plus pour moi, c'est pas pour ces choses que je vais me perdre. Et c'est là où on voit que si on se détache trop vite, c'est qu'on a eu quand même un manque de conscientisation réellement de ce que Jésus a fait pour nous. Et donc, notre cœur n'appartient pas encore totalement à Jésus.
Le diable veut nous distraire, en fait.
Exactement.
Vu qu'on soit toujours distrait.
Tout à fait.
Et finalement, qu'on perde notre joie, notre paix, tout ça. Mais Dieu veut qu'on soit heureux.
Oui.
Lorsque nous tournons les regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Mais il faut garder nos yeux sur lui.
Oui,
parce que les hommes, ils vont nous décevoir.
Exactement.
Mais regardons plus haut et soyons heureux.
C'est ça.
Une bonne publicité pour le Seigneur. Donc, gloire
Amen,
à Dieu. Merci, pasteur Michael, d'avoir été là. On poursuit demain. On va parler encore de ce sujet de la puissance de la résurrection qui est disponible pour nous. J'aimerais vous inviter. Écrivez-moi dès aujourd'hui si vous avez été touché. Vous avez une question théologique. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écrivent. Vous avez un témoignage de victoire. Écrivez-nous à videfoi@emctv.com. videfoi@emctv.com. Et dites-moi ce que le Seigneur a fait pour vous aujourd'hui. Donc, merci également à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.